Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Sunlight Production.
À l'heure où j'enregistre cet épisode, je suis au 90e jour de mon défi sans sucre ajouté. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce défi n'a pas toujours été simple à réaliser. À vrai dire, je suis presque soulagé d'arriver au bout de cette aventure. Évidemment, il y a énormément de points positifs à cette expérience. Mais j'ai aussi dû surmonter tout un tas de difficultés. Bien sûr, je comprends que pour certaines personnes, ne plus consommer de produits à base de sucre ajouté est un défi sans presque aucune difficulté. Mais pour moi, ça n'a vraiment pas été simple. Mais quoi qu'il arrive, le plus important, c'est que grâce à ce défi, j'ai énormément appris de choses, non seulement sur mon alimentation, mais aussi sur moi-même. L'heure est maintenant venue pour moi de dresser un bilan de cette expérience et pour m'aider à faire la part des choses entre le positif et le négatif, j'ai demandé à Nolwenn, qui suit ce podcast depuis sa création, de me poser toutes ces questions autour de ce défi. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Nolwenn. Salut Nolwenn, comment ça va ?
Ça va et toi ?
Bah écoute, ça roule. Merci infiniment d'avoir accepté de faire un petit peu la journaliste, puisque pour les auditeurs et les auditrices qui ne le savent pas forcément, mais tu as rejoint l'équipe de Sunday Night Production. Donc c'est la maison de production qui produit 93 jours, qui produit aussi Dans la tête d'un coureur. Donc tu as rejoint un peu les équipes et tu as décidé de me prêter un peu main forte pour cet épilogue, pour qu'on puisse ensemble peut-être débriefer de cette aventure et tirer un peu le positif, le négatif et les expériences que j'ai pu en tirer.
C'est ça. J'ai un peu la pression, mais je suis ravie de participer au grand final de ton défi 93 jours sans sucre ajouté. Alors, du coup, c'est moi qui mène les échanges, c'est bien ça ?
Alors, je te laisse la main. Maintenant, ça va être sympa parce que c'est plus moi qui vais travailler, c'est toi qui vas devoir poser les questions. Je t'avoue que je suis pas forcément habitué parce que d'habitude, c'est moi qui pose les questions. Mais voilà, pour ces petits FAQ, c'est aussi agréable des fois de passer de l'autre côté du bureau.
Je veux bien te croire. Du coup, concernant le déroulement, je te propose de commencer par nous parler de ton expérience sans sucre ajouté. Donc, la naissance de ton projet, ton ressenti pendant ces 93 jours. Et ensuite, j'aimerais qu'on évoque un point important pour la coureuse que je suis, et je suis sûre d'ailleurs que je ne suis pas la seule à m'être interrogée sur ce sujet. Comment as-tu géré la reprise de la course à pied en réalisant ton défi ? Et enfin, tu pourras nous parler du bilan que tu dresses de ton expérience et des suites, une fois que les 93 jours seront écoulés.
Bah écoute, ça me va très bien. Je pense que c'est un bon déroulé, puis ça me permet de développer des choses que j'ai pas forcément trop développées durant ce podcast-là, parce qu'il faut faire des choix éditoriaux aussi. Donc on va pouvoir peut-être détailler des choses un peu plus en profondeur. Donc très bien, ça me va parfaitement. C'est un très bon déroulé.
Super. Donc alors pour commencer, j'aimerais qu'on revienne sur l'origine de ton projet. Alors pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans un tel défi ?
Eh ben je me pose encore la question pour tout te dire. Non, en fait, très simplement, j'ai toujours été très, très gourmand. Je crois que les souvenirs que j'ai, même en étant très petit, j'avais tendance des fois à faire le fond des poches de mes parents, d'essayer de fouiller un peu partout dans les bibelots de la maison pour aller trouver quelques francs, parce qu'à l'époque, c'était les francs, pour pouvoir aller à la boulangerie et m'acheter des bonbons, tu vois, ou ce genre de choses. Donc, j'ai toujours été très friand de bonbons, j'ai toujours été très gourmand. Et mes parents heureusement étaient assez stricts sur l'alimentation et voilà, c'était pas du genre à nous acheter des sucreries. Et c'est vrai que quand je me suis un petit peu émancipé, donc vers 18 ans, parce que je suis parti assez tôt de chez mes parents, je me suis un peu plus fait plaisir, tu vois. J'ai acheté des bonbons, je grignotais un petit peu. Alors je suis pas un très gros consommateur de ce genre de produits, mais voilà, j'aime bien me faire plaisir de temps en temps. Heureusement, je suis pas du tout addict au soda, parce que sinon, je pense que j'aurais pu mal tourner. C'est pas des boissons que j'ai l'habitude de consommer, mais j'aime bien les pâtisseries. J'adore la pâtisserie. J'aime bien ce genre de choses. J'aime bien les desserts. Je suis assez sucré comme garçon. Et en fait, je faisais beaucoup, beaucoup de sport. Donc,
finalement, je pouvais me payer ce luxe. En tout cas, j'avais l'impression de pouvoir m'offrir ce luxe, de pouvoir manger, me faire plaisir sans forcément prendre trop de poids. Et je pense que pour pas mal de coureurs, c'est quand même un des premiers avantages que tu as, c'est courir plus pour manger plus.
C'est vrai.
Donc voilà, sauf que bah il y a eu un événement. Cet événement, il n'a pas concerné que moi, parce qu'il a concerné à peu près les 8 milliards de personnes sur Terre. C'est le confinement et le fait que on a dû arrêter de pouvoir faire du sport, arrêter de courir, ou en tout cas plus du tout comme on pouvait le faire auparavant. Et aussi, c'est un événement qui a généré pas mal de stress, d'anxiété, je pense, pour beaucoup de monde. Surtout que bah, moi, j'avais lancé mon entreprise avec Pierre-Emmanuel presque un an auparavant, et que bah, on s'est posé beaucoup de questions. Donc, tu as un petit peu ce côté aussi réconfort. Et moi, je suis vraiment partie des gens, dès qu'ils stressent, dès qu'ils sont un peu anxieux, bah, qu'ils se jettent sur les placards pour aller grignoter. Je fais partie de ces gens-là. Et là, c'est l'inverse. Ils mangent pas forcément et ils ont l'appétit coupé. J'aurais peut-être bien aimé, comme ça je perdrais du poids, mais moi c'est pas le cas. Et c'est vrai que j'ai pris 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, et au fur et à mesure je me suis aperçu que quand même j'avais un, je vais pas dire un souci, mais j'avais quand même une relation un petit peu, j'étais un peu trop gourmand et que je pouvais vite prendre des mauvaises habitudes, et qu'il fallait que peut-être j'en finisse avec cette surconsommation de sucre que je pouvais avoir.
D'accord. Et donc, verdict alors, comment est-ce que tu as vécu ces 93 jours ?
Bah, c'est pas ma première aventure défi alimentation, puisque tu n'es pas sans savoir que l'année dernière, j'ai tenté l'aventure 93 jours végétarienne, exactement, défi végétarien, qui s'est finalement plutôt bien passé dans les grandes lignes. En tout cas, j'ai pas du tout eu de manque. La viande ne m'a pas manqué. J'ai découvert une nouvelle façon de m'alimenter, j'ai découvert de nouvelles recettes, ça a été hyper enrichissant. Ce que j'ai pas forcément découvert avec le défi sans sucre ajouté. Ça a été un problème, mais j'ai pas découvert une nouvelle façon de m'alimenter, ce qui est tout à fait normal, hein, parce que c'est moins engageant. Alors j'ai appris à cuisiner, à faire des desserts différemment, et j'ai vraiment compris que finalement tu pouvais manger des choses très gourmandes et pas forcément ajouter de sucre ajouté, mais ça n'a pas été un bouleversement comme le même bouleversement. Et surtout, certains produits m'ont énormément manqué, et j'ai même craqué, il faut bien que je le reconnaisse, une ou deux fois, pas plus, je l'assure, mais il faut être honnête aussi, j'ai craqué une ou deux fois sur un petit grignotage par-ci par-là, parce que vraiment, je tenais plus, quoi, en fait.
Faut t'avouer à moitié pardonné.
J'espère.
Et donc, du coup, puisque tu dis que tu as craqué, qu'est-ce qui a été pour toi le plus difficile à gérer? Comment tu as réussi à surmonter les difficultés? Parce que tu n'as pas craqué à chaque fois que tu as eu un petit coup de mou.
Non, en fait, le souci, c'est que l'aliment sucré, le gâteau, le dessert, c'est souvent des choses qui sont assez liées au côté festif. Tu vas être un anniversaire, tu vas aller... Bah, moi, j'ai eu la galette des rois, par exemple. C'est souvent... La fête est souvent assez reliée. Alors, ça peut être le champagne, ça peut être l'alcool, mais ça peut aussi être les produits sucrés. Donc, souvent, tu es un peu exclu de ce genre de choses. Et ça peut être assez dommage. Tu vois, typiquement, bon, la galette des rois, j'ai eu la chance, c'est que c'était tout au début du défi. Donc, j'étais très motivé. Mais au fur et à mesure, des fois, ça me manquait vraiment. L'anniversaire de mon papa, de ne pas pouvoir manger du gâteau d'anniversaire, ça m'a fait quand même beaucoup de peine. Vraiment, tu vois. Et c'est un détail, mais voilà. Et en fait, comment j'ai craqué? J'ai craqué une fois, j'étais invité à un événement, donc c'était l'inauguration d'une boutique de l'un de nos partenaires, et il y avait des petites gaufrettes sucrées qui me faisaient vraiment très envie, fourrées. Alors c'est un grand pâtissier, mais j'ai oublié son nom, et sans m'en rendre compte, j'en ai pris une et j'en ai mangé une, et en fait le goût m'a tellement, c'était très très sucré pour le coup, parce que il y avait une espèce de nappage à l'intérieur, et d'un seul coup je me suis dit ah mais qu'est-ce que j'ai fait, tu vois. Et en fait, le cerveau m'a complètement. J'avais envie en fait de ce truc-là, et je me suis pas posé de questions. Un ami à moi qui m'a dit mais attention c'est sucré, et c'était trop tard. Voilà. Donc je l'ai fini, mais j'ai même pas pris de plaisir parce que j'ai trouvé ça très sucré.
Ah oui, ça a changé un peu ton palais sur le moment.
Ah mais complètement. Ça c'est quelque chose, mais assez vite. Au bout de 2 semaines, tu te déhabitues assez vite au goût sucré. Il y a des aliments, typiquement la petite gaufrette que j'ai mangée, je l'ai trouvée extrêmement sucrée, mais j'ai, quand même pris du plaisir à la manger, rassure-toi. Par contre, aussi dans le bon sens, c'est que typiquement aujourd'hui, je buvais mon café, alors je mettais toujours un petit peu de miel, pas beaucoup, mais je mettais un tout petit peu de miel dans le café. Ça peut paraître bizarre pour beaucoup, pour certains, mais voilà, c'était mes habitudes.
J'aurais pas pensé à ça,
ouais. Ouais, bah, en fait, j'avais déjà essayé de me passer du sucre en poudre, donc voilà. Les expressos, je les ai jamais sucrés, mais tu sais, le matin, moi, je bois du café, la cafetière italienne.
Ouais.
La cafetière italienne, c'est vrai que c'est quand même un café qui est assez fort, assez aussi allongé. Et voilà, j'aime bien le sucré un petit peu. Et donc, j'étais passé au miel et finalement, je m'étais habitué, je trouvais ça très, très bon. Et au début, c'était une horreur parce que c'était un jus de chaussette. J'arrivais pas du tout à boire mon café sans sucre. Je trouvais ça pas bon. Et du coup, j'ai consommé moins de café, ça c'était une bonne chose. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis plus du tout aperçu et aujourd'hui, je ne conçois pas le repas avec du sucre. Donc, ça a des côtés quand même assez positifs. Les produits très sucrés, aujourd'hui, me dégoûtent en fait. Mais heureusement, il y a plein de desserts où tu sens moins le sucre et ça me manque.
Bah écoute, moi, il ne me dégoûte pas. Donc, si tu retrouves l'adresse de ce pâtissier qui fait des gaufrettes, tu pourras me la donner. On la partagera.
Et bah écoute, c'est pas loin de nos studios. Donc, je pense que et c'est délicieux. C'est vraiment délicieux. C'est un espèce de nappage à l'intérieur. Je sais pas, un peu vanillé. C'est excellent. Mais c'est très sucré. C'est même une bombe glucidique. Hein. C'est très, très, très sucré pour le coup.
D'accord. Et comment est-ce que tu parlais de l'anniversaire de ton papa, de manière générale, comment est-ce que ton entourage a vécu ton nouveau régime? Parce qu'on sait qu'on est en confinement, donc c'est vrai que ça limite quand même vachement les interactions sociales, mais est-ce que ça a quand même pu te mettre souvent en difficulté par rapport à différents événements? Tu nous parlais de la galette des rois, de l'anniversaire de ton papa, etc. Ça t'a vraiment pesé dans ces moments-là?
Mais je pense tous les régimes alimentaires, même les personnes qui ne boivent pas d'alcool, typiquement moi je suis quelqu'un qui boit très peu d'alcool, et dès que tu as un régime alimentaire qui ne se conforme pas à une certaine normalité, entre guillemets, c'est pareil pour les végétariens, c'est pareil pour les gens qui font aussi des allergies, qui sont allergiques au gluten ou ce genre de choses, bah, tu as toujours un espèce de jugement, regard assez critique des autres, même les personnes qui sont bienveillantes avec toi, mais en fait on ne comprend pas forcément pourquoi c'est une relation particulière, tu sais, il y a le côté un peu rituel d'être à table, de partager, de communier les choses avec ton entourage, et un peu bah, tu t'exclus de ça, donc c'est pas évident pour toutes les personnes, je pense, qui ont des régimes alimentaires un peu particuliers, et forcément bah, j'ai pas dérogé à ça. Ça a été assez mal vécu dans ma famille pour l'anniversaire de mon père ou pour la galette des rois, parce que les gens ont dit quand même fais un effort, tu vois, on est tous ensemble et tout, et je comprends ça, hein, je comprends que c'est quelque chose qui est où tu t'exclus un peu de ça. Et c'est exactement la même chose que j'ai eu avec le régime végétarien. Mais par contre, pour le coup, ma copine n'est pas quelqu'un qui mange très sucré. Elle est plutôt charcuterie, saucisson, rillettes, ce genre de choses. Donc ça l'avait beaucoup plus embêtée pour le défi végétarien.
Vraiment. C'est ce que j'allais dire là pour le défi. Voilà. Un défi plus compliqué pour elle, le premier que le deuxième.
Ah là, exactement, plus compliqué pour elle le premier que le deuxième, et là ça a pas du tout impacté sa vie, et puis finalement il y a pas de restaurant aussi, donc tu vois, il y a aussi cette tentation du dessert dans les restaurants. J'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'il y a pas eu cette tentation là, donc voilà. Et la pâtisserie m'a quand même un peu manqué, mais ça a pas eu d'impact vraiment, à part ces moments festifs, ça a pas eu d'impact pour mes proches, en tout cas moins que pour le défi végétarien.
D'accord. Bah écoute, j'aurais dit l'inverse, donc tu fais bien de le préciser. Et dans le cadre de ton expérience, tu as rencontré de nombreux spécialistes, donc des psychiatres, une diététicienne, Tiffany, une hypnothérapeute, entre autres. Qu'est-ce que ces différents échanges ont pu t'apporter? Est-ce que tu as découvert des choses que tu ignorais sur l'industrie du sucre ou sur les rapports qu'on peut entretenir avec le sucre, les réactions de notre corps, etc.?
Bah, j'ai appris énormément de choses, pour rien te cacher. Je pensais déjà connaître un petit peu le sujet, mais finalement, j'en ai découvert beaucoup plus. Alors moi, la première question que je me posais, c'était ce qui était lié aux addictions. Parce que je voyais bien que le soir, des fois, je me levais, j'avais envie de grignoter, j'avais envie de choses sucrées. Je voyais bien que j'avais un rapport avec les aliments sucrés qui étaient différents des autres aliments. Et d'ailleurs, j'ai pas eu de manque pour le produit végétarien, ce qui prouve que finalement, on n'est pas programmé forcément pour manger de la viande. En tout cas, il n'y a aucun système neurologique qui va nous activer l'envie de manger de la viande. Par contre, pour le sucre, tu as vraiment ce sentiment. Parce que les glucides, c'est indispensable à la vie. Le cerveau en a besoin. Si on arrête de manger vraiment totalement des glucides, quand je dis les glucides, hein, c'est sucre lent, ce genre de choses, je dis les glucides au sens large, on peut en mourir. Donc c'est réellement on a un véritable besoin. Alors ça peut être des pâtes, ça peut être des sucres lents, mais quand même le corps nous le réclame un petit peu. Donc j'avais cette impression d'être des fois peut-être un petit peu dépendant. Et j'avais eu des témoignages aussi de gens, de personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit, moi, je suis vraiment addict au sucre. En employant cela, je suis addict au sucre. Et donc, je me suis dit, je vais aller contacter une addictologue, une personne qui connaît bien, qui a travaillé sur les sujets, notamment de la dépendance au sucre, et qui m'a complètement, déculpabilisé, qui m'a rassuré sur le fait que l'addiction au sucre, en fait, n'était pas comparable à l'addiction, comme on pouvait lire des fois dans la presse un petit peu généraliste, n'était pas comparable à l'addiction des toxicomanes à la drogue, à l'alcool ou à ce genre de choses. Tout simplement parce que déjà, tu as un effet de satiété. Quoi qu'il arrive, ta boîte addict au sucre, si tu te manges un demi-kilo de bonbons, et à un moment donné, tu vas plus pouvoir manger un bonbon, sinon ça va te dégoûter et tu vas avoir un mal de ventre. Donc, tu as un effet de satiété que tu n'as pas avec l'alcool ou les drogues. Tu vas tout le temps augmenter ta consommation. Et ensuite, tu n'as pas d'effet de sevrage. Les effets de sevrage, c'est-à-dire... moi, c'est ce que m'expliquait aussi cet addictologue, c'est qu'une personne qui est en sevrage, déjà, la maquille en meurt. Donc, tu ne peux pas sevrer vraiment un alcoolique, tu es obligé de lui garder sa dose parce que sinon, ça peut le tuer.
Oui.
Et surtout, c'est des personnes qui vont avoir des crises, qui vont transpirer, qui vont faire des insomnies, qui vont être dans un état pas possible, ce que tu n'as pas non plus avec le sucre. Donc, certes, on va avoir une relation qui est lié surtout au phénomène du plaisir, au phénomène de la récompense, mais qui c'est un abus de langage de parler d'addiction au sucre. Alors je sais que j'avais eu des messages de personnes qui acceptaient pas forcément ce discours, qui est pourtant le discours d'une professionnelle, mais c'est la réalité. On peut pas vraiment parler au sens propre. Enfin, on peut pas mettre en comparaison l'addiction à la drogue et l'addiction au sucre. Ce serait pas honnête de le faire. Néanmoins, moi j'ai un souci, c'est que je suis hyperactif, j'ai un TDAH, donc je suis toujours à la recherche de dopamine. Et forcément, le sucre est un fabuleux moyen d'obtenir de la dopamine. Donc, tu vois, des fois, ça s'emmêle un petit peu. Donc, c'est un peu entre les deux, voilà. Mais c'est rassurant quelque part de se dire qu'il n'y a pas finalement de dépendance au sucre, parce que je pense que c'est aussi un moyen de se déresponsabiliser. Je suis accro, je suis addict, donc finalement, ça ne dépend pas que de moi. Je suis un peu victime de ça, et c'est aussi un moyen de te déresponsabiliser, je pense.
D'accord. Donc, finalement, on peut essayer nous-mêmes de cesser de s'alimenter, en tout cas, de consommer du sucre ajouté sans avoir peur d'être pris de crise de tremblement et d'avoir à être admis à l'hôpital.
Ça va être dur comme un régime parce que tu vas avoir envie, mais globalement, si tu es très motivé, la preuve, c'est que je l'ai fait. Et pourtant, croyez-moi, je suis un mec extrêmement gourmand, vraiment très, très gourmand. Celles et ceux qui me connaissent le savent.
Et il y a un aspect que tu as moins évoqué dans les différents épisodes du podcast, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est ta reprise de la course à pied. Donc, tu avais arrêté pendant un long moment suite à une blessure et tu as décidé de rechausser tes baskets tout en te lançant dans ce défi sans sucre ajouté. Est-ce que la reprise a été compliquée ?
Alors, la reprise n'a pas du tout été compliquée, tout simplement parce que assez rapidement, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément envie de repartir sur une préparation extrêmement exigeante. J'avais plutôt envie de renouer avec la notion de plaisir, avec la notion de bien-être, avec la notion de santé. C'était vraiment ça en fait qui me motivait à courir et pas du tout de m'envoyer des grosses séances, de faire du fractionné ou ce genre de choses. Attention, j'adore ça. Je suis quelqu'un qui aime sortir de sa zone de confort, mais aujourd'hui, j'ai ma façon d'envisager et de voir le running a évolué. C'est-à-dire que je suis plus quelqu'un qui va 365 jours par an être à la recherche de la performance. Je vais plutôt me lancer un ou deux défis sportifs où vraiment je vais avoir envie de m'investir à 200% dans ce défi-là. Mais en dehors de ces challenges-là, je vais plutôt être dans une relation de plaisir avec la course à pied. C'est vraiment comme ça, en tout cas, que moi j'aime. Alors, tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, c'était pas du tout ma vision, mais aujourd'hui, ça a évolué, c'est ça que j'aime. Donc, j'avais vraiment envie d'aller courir, de pas me soucier du chrono, de pas me soucier de ce que j'avais à faire, du plan d'entraînement, de ce genre de choses. Alors j'ai un minimum de cadrage, j'ai suivi le programme, je reprends la course à pied, là je vais enchaîner sur le programme Objectif Seuil. C'est des choses qui me donnent un conducteur, mais il y a pas de prise de tête.
Bien
sûr. C'est un truc, c'est le plaisir en premier quoi. Et si ce que j'aime bien avec ce programme-là, c'est que t'as des séances optionnelles, des séances obligatoires, des séances recommandées, donc tu peux quand même avoir ce petit dosage. Je me prends pas la tête. Comment ?
Oui, tu peux tout à fait t'adapter, ça c'est sûr.
Exactement, ouais. Ça te laisse un peu une marge de manœuvre où tu veux mettre les choses. Et donc, bah, on a de la chance, il n'y a plus de compétition. Donc, il faut aussi prendre ce temps-là pour se dire, bah, voilà, je vais être sur du, sur peut-être revivre des nouvelles sensations, en tout cas des sensations que j'avais peut-être un petit peu oubliées. Donc, voilà, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup parlé parce que, au début, je communiquais sur Strava, ce genre de réseau et tout. Et, bah, quelquefois, t'as quelques messages de personnes qui, comprennent pas forcément ce que tu fais, te disent qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Et c'est vrai que des fois, tu te sens un petit peu espionné sur ton rythme cardiaque, sur ce genre de choses. Et en fait, j'ai pas trop aimé ça. En fait, voilà. Donc, c'était quelques personnes, c'était vraiment minoritaire parce que j'ai eu beaucoup d'encouragement, beaucoup de soutien. Mais j'avais pas envie de me prendre la tête, en fait, avec, à justifier des séances ou ce genre de choses. Et d'ailleurs, j'en parle dans un épisode de Dans la tête d'un coureur. Quelquefois, c'est voilà, pas, faut faire attention à qui on partage. Et moi, malheureusement, j'ai beaucoup de gens qui me suivent sur ces réseaux. Et des fois, il y a des gens qui veulent juste se comparer à toi, à ce que tu fais. Et j'aime pas ça, en fait. Donc, je suis pas à l'aise. J'étais pas à l'aise avec ça. Donc, c'est pour ça que j'en ai un peu moins parlé. Et je pense qu'il y a d'autres gens qui sont aussi un peu comme moi. Et il faut être vigilant, je pense, par rapport à ça. Donc, c'est vrai que j'avais envie de garder ça un peu pour moi. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, tu as tout à fait raison. Puis la dimension course-plaisir, je pense qu'elle est importante. Il ne faut jamais la perdre de vue.
Elle est capitale, vraiment. Elle est capitale, surtout en ce moment où on voit que la santé, c'est quand même un élément qui est déterminant. Les hôpitaux, aujourd'hui, le système de santé va mal en France et que bah, c'est notre responsabilité aussi individuelle. On a la chance, on a la sécurité sociale, on a ce genre de choses, mais c'est aussi notre responsabilité individuelle de faire attention à sa santé, de faire attention à son alimentation. Et d'avoir une activité physique modérée. Je pense que s'entraîner beaucoup, bah, ça a des effets aussi délétères sur la santé, j'en suis convaincu, et c'est prouvé d'ailleurs. Donc voilà, aujourd'hui, je suis très épanoui à me dire, je me lance un ou deux défis, je m'investis mais vraiment à 200%, et le reste du temps, bah, je me consacre à ma famille, à mon travail et au sport loisir, et ça me va très très bien. Je garde un bon niveau, je garde un plan d'entraînement, je garde un bon seuil, mais si j'ai pas envie, j'ai pas envie.
Parfait. Est-ce que même si tu n'as pas suivi d'entraînement intensif, le fait d'avoir supprimé le sucre ajouté de ton alimentation t'a fait ressentir une faiblesse lors de tes entraînements au niveau de ta forme et de ton physique ?
Alors, c'est dur à dire parce que c'est toujours pareil. Je me suis senti extrêmement plus productif. J'ai beaucoup moins de baisse d'énergie. Ça, c'est indéniable. Concrètement, c'est pas spectaculaire. Encore une fois, on n'est pas dans des gains spectaculaires parce que des fois, les gens, tu sais, sur les réseaux sociaux, sur certains documentaires, sur YouTube, sur Netflix, on nous vend toujours des effets presque miraculeux et tout. On n'est pas dans ça. Attention. Mais par contre, c'est vrai que depuis 3 mois, j'ai jamais été aussi productif de ma vie. Il n'y a pas que ça, je pense. J'ai déménagé, j'ai aussi, voilà, j'ai un peu recentré mes priorités sur, pas seulement que sur le sport, sur le travail, sur la famille, sur les amis, sur ce genre de choses, parce que le sport avait pris beaucoup de place dans ma vie. Il y a le film aussi, Soul, qui m'a un peu aussi remis, un film de Pixar. On en a parlé aussi dans un autre podcast, mais.
Je crois qu'il a remis en place les idées de pas mal de gens, ce film.
Ouais, c'est vrai, vraiment, sur le fait que, bah, c'est bien d'avoir des passions, mais c'est bien aussi de pas tout sacrifier pour ses passions. Et c'est vrai. Et puis je suis sorti d'une préparation marathon où pour le coup je me suis énormément investi, quoi. Et donc et je pense que c'est bien. Encore une fois, attention, hein. Il faut faire les choses avec sérieux. Il faut des fois se lancer dans un. Je prône ça. C'est vraiment. Mais si c'est H24, 365 jours par an et pendant 15 ans, si c'est ce qui vous va, tant mieux. Mais moi, ça me correspondait plus. Voilà. Pour l'instant, en tout cas, peut-être que dans 2 ans ça va changer. Mais c'est plus ce qui me rendait heureux tout de suite.
Eh ben, c'est bien de s'en être rendu compte.
C'est bien de s'être rendu compte. Et sinon, je vais juste rebondir sur un. Je me permets parce que tu sais, j'ai fait un épisode avec un historien sur le sucre.
Et, oui, tout à fait.
Et voilà, c'est pas forcément l'épisode qui a eu le plus de succès, mais c'était un épisode que j'ai trouvé vraiment incroyable. Et on se rend vraiment compte de la place qu'a eu le sucre dans notre économie, puisque finalement c'est l'une des premières industries, l'industrie sucrière.
Ouais.
Ça a eu des conséquences sur l'esclavage, sur ce genre de choses. Ça a eu des conséquences aussi sur les pays extrêmement développés, notamment les États-Unis. Si les États-Unis ont une relation si particulière avec les produits sucrés, c'est justement parce que leur économie, leur histoire, elle est extrêmement liée à cette industrie-là. Donc s'il y a des personnes curieuses et curieuses comme moi et qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter cet épisode-là, je vous le recommande fortement. Foncez l'écouter, c'est vraiment un épisode passionnant. Je ne sais pas si tu l'as écouté, mais
si, vraiment, je l'ai écouté et je partage ton point de vue. Pensez l'écouter.
Voilà, il n'y a pas que des fois la nutrition sportive, combien les dosages, et si et ça, des fois on peut être un petit peu curieux, donc n'hésitez pas à l'écouter. Voilà, petite promotion, mais je le fais du fond du cœur, surtout que historien est quelqu'un de très bien, très, très pédagogue, et pour celles et ceux qui ne vont pas écouter. Voilà. Et sinon, sur l'hypnothérapie, sur Tiffany aussi, bah, c'est des super outils, l'hypnothérapie. Donc, c'est des choses que j'ai expérimentées et qui sont aussi assez surprenantes. Mais voilà, pas spectaculaire non plus comme certaines personnes. Alors après, on est tous différents et on réagit différemment, mais qui m'ont beaucoup aidé, notamment sur la fin de mon défi où c'était très, très dur. Heureusement que j'ai eu ça, parce que sur le dernier mois, c'était assez compliqué, et ça m'a vraiment permis de discuter aussi avec Manon, de parler de tout ça, les échanges qu'on a pu avoir. Ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des soucis aussi avec le sucre ou ce genre de choses, d'addiction ou de dépendance, ou de voilà, n'hésitez pas à aller consulter ce genre de discipline. Moi, j'avais des a priori sur ça, et faites-vous une idée, et n'écoutez pas forcément ce qu'on dit sur ça, et faites-vous une idée, n'hésitez pas à aller essayer.
Oui, c'est vrai que c'est très intéressant, parce qu'on n'a pas forcément le réflexe de penser à tous ces spécialistes qui pourtant peuvent nous accompagner et nous aider. Donc c'est vrai que le fait d'avoir fait un épisode là-dessus, ça peut être très pertinent.
C'était voilà, et c'est, alors encore une fois, moi j'étais pas du tout client de ce genre de choses, donc ça m'a demandé des fois de mettre un petit peu mes a priori de côté, mais ça valait le coup.
Alors, je t'ai dit qu'il n'y avait pas que la nutrition sportive, etc., mais on va quand même y revenir un petit peu, hein, on ne se change pas. Beaucoup de sportifs utilisent des barres énergétiques ou des boissons qui contiennent du sucre pour se redonner de l'énergie durant l'effort. Donc, je ne sais pas si toi-même t'en consommes, mais est-ce que selon toi, la suppression de ces produits, donc qui contiennent du sucre ajouté, peuvent impacter la performance des athlètes, notamment sur les longues distances comme le trail ou le marathon? Et si c'est le cas, est-ce qu'il est facile de trouver des alternatives à tous ces produits?
Alors, c'est une excellente question. Honnêtement, je ne vais pas forcément développer. Alors, je vais évoquer le sujet de la nutrition sportive, parce qu'elle a énormément évolué ces dernières années et qu'il y a énormément de choses à dire sur ça, mais plutôt d'un point de vue économique et aussi dans la perception des choses. Mais par contre, on va bientôt... on s'est associé avec Tiffany. Tiffany Elsie, qui est très connue aussi sur Instagram et avec qui on travaille, oui, et on collabore depuis maintenant plusieurs années, qui est une nana incroyable. Enfin, moi, j'adore ses contenus, j'adore sa pédagogie. Elle est, voilà, c'est quelqu'un que je suis déjà depuis très longtemps, et donc je suis extrêmement content de pouvoir collaborer avec elle. Et on va justement synthétiser la saison 1 et la saison 2 de 93 jours, donc tout ce qui est autour de la nutrition plus végétale, plus locale, plus de saison, aussi tout ce qui est lié au sucre. Et donc, Tiffany, qui est une vraie professionnelle, va répondre plus en détail à ce sujet-là. Et donc, ça sera sous forme d'un e-book, et ce sera bientôt disponible. Ça sortira même précisément, je crois, le 9 avril. Voilà, restez à l'écoute. Mais je ne vais pas développer, parce que ce n'est pas forcément mon champ de compétences. Et très honnêtement, je ne suis pas la personne la plus à titre. Il faut savoir ses limites. Mais on travaille justement sur une synthèse de tout ça, et ce sera disponible sur un e-book. Donc voilà, restez à l'écoute. Ce sera bientôt. Par contre, au sujet de la nutrition sportive, là, on constate un bouleversement, parce que pendant très longtemps, nous avons eu des choses extrêmement chimiques, extrêmement avec des conservateurs, avec du sucre ajouté. Des fois, c'était limite, des laboratoires. Voilà, on avait l'impression que c'était des produits très, très chimiques.
Dont on n'avait pas un seul ingrédient.
Exactement. Enfin, moi, j'avais fait le test de les mettre sur, tu sais, sur l'application Yuka.
Yuka, ça, oui.
Alors, faites le test un jour sur certains nutriments. Vous allez voir, ça, vous avez des notes de 1 sur 10, 2 sur 10, c'est tout rouge, le truc qui fume. Donc, on se dit quand même, c'est un problème, et que depuis quelques années, mais c'est assez récent, on a un profond bouleversement sur la nutrition sportive. T'as des marques, Made in France, biologiques, où on fait beaucoup plus attention à ce qu'on met. Et pour moi, ça fait sens, parce que quand t'es un coureur, t'as pas envie de t'envoyer des conservateurs, des produits comme ça, quoi. Tu veux du naturel, et heureusement. Donc la nutrition sportive, elle est en train de changer. On va d'ailleurs en parler certainement dans la tête d'un coureur sur toutes les évolutions qu'on peut avoir. Et c'est une excellente chose. Et il y a énormément de choses à faire autour du sucre, notamment en termes des formes du sucre. Et on peut que s'en réjouir. Donc faites très attention aux produits que vous allez sélectionner. Moi, j'en consomme très, très peu. Je m'en étais... surtout quand je fais des prépas marathons, où là, je vais consommer certains produits, certaines barres. Après, sur tout ce qui est boisson, je l'ai fait moi-même. Mm-hmm. Donc, voilà, je suis plutôt partisan de faire les choses moi-même, mais sur certains gels, des fois, c'est quand même pratique. Donc je vais les utiliser, mais c'est vraiment de manière assez anecdotique et surtout dans le cadre de compétition et surtout de compétition longue durée. Je vais pas du tout en consommer sur 10 km, même sur semi. Sur marathon, par contre, ça va devenir effectivement un allié assez intéressant, voire même indispensable. En tout cas, quand on a la recherche d'une optimisation de la performance.
Oui, bien sûr. D'accord. Eh bien, écoute, je te propose de passer à la troisième partie. Donc, à savoir, que va-t-il se passer maintenant que le défi s'achève? Donc, t'arrives maintenant au terme de ton défi. Si tu devais dresser un rapide bilan de ton expérience, qu'est-ce que tu nous dirais?
Ça n'a pas été facile tous les jours, clairement, c'est très long, 3 mois de défi sans sucre ajouté. Le premier mois est plutôt bien passé, ça a été quand même assez long, ça a été un peu moins enrichi. Alors forcément, je vais comparer à ce que j'ai vécu sur 93 jours, le défi végétarien. Aujourd'hui, je mange presque plus de viande, par exemple. Ça a eu des impacts assez importants sur ma vie que j'ai un peu moins ressenti sur ça. Au niveau du poids, j'ai pas spécialement perdu de poids parce que malheureusement, tu peux les fruits, tu vois, j'avais parlé aussi des fruits secs, même si là, ça y est, c'est bon, j'en consomme presque plus. Mais voilà, tu vas te rabattre et tu consommes du sucre naturel, du sucre ajouté, ça reste quand même du sucre. Et voilà, c'est quelque chose quand même assez long qui demande un gros travail sur soi-même, qui demande quand même, moi, il y a aussi le côté aussi avec l'hyperactivité, ce genre de choses. Donc, c'est un travail sur très long terme qui se fait un peu moins sur forme de challenge. On a tous un rapport un peu spécial aussi avec l'alimentation. Donc, c'est des choses qui sont des fois assez intimes. Et donc, c'est quelque chose d'assez long, qui est un processus qui se fait pas forcément sous le cadre d'un défi. Mais par contre, je suis convaincu, tu vois, par exemple, pour le café, par exemple, sur certains produits aujourd'hui qui ne m'attirent plus parce que que je juge trop sucré, et j'espère vraiment que je vais pas me jeter sur ces produits là une fois le défi est terminé. Donc c'est dans 2 jours alors on enregistre ce podcast, donc je vais être vigilant par rapport à ça. Après, j'ai pas perdu autant de poids que ce que je pensais, mais finalement ça c'est assez normal, et c'est un peu un petit peu moins spectaculaire entre guillemets.
D'accord, donc si j'ai bien compris, tu n'as pas l'intention de te jeter sur les chocolats de Pâques ce week-end?
Ah si, j'ai quand même l'intention de manger des chocolats, crois-moi, c'est l'une des choses qui m'a plus manqué. Et le chocolat de Pâques, je vais me faire plaisir, ça, il n'y a pas de débat, Par contre, il y a peut-être des chocolats que je vais, le chocolat noir, je pense qu'il me manque énormément, quoi, tu vois. Donc si, je vais me faire plaisir sur le chocolat, je vais me faire plaisir, mais raisonnablement, encore une fois, raisonnablement. J'essaye quand même. Il faut quand même que cette expérience, attends, j'en ai quand même bavé pendant 93 jours, ça n'a pas été simple tout le temps, croyez-moi. Donc, il faut quand même que je tire du positif de ça.
C'est sûr. C'est intéressant en tout cas. Et qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller aux auditeurs qui aimeraient t'emboîter le pas et se lancer dans un challenge sans sucre ajouté?
Alors, ne faites pas forcément 3 mois comme moi, c'est très très long, pas 12 semaines. Faites plutôt 1 mois, ça c'est très cool. Vous allez déjà en 2 semaines, vous allez assez rapidement vous déshabituer du sucre. Donc, n'hésitez pas à le faire. Ne soyez peut-être pas aussi strict que moi. Après, moi, je suis quelqu'un, c'est tout blanc ou tout noir, quoi. Soit je craque une fois et après, ça va être compliqué. D'ailleurs, à partir du moment où j'ai craqué une fois, c'est là où c'est devenu vraiment très compliqué de me battre contre moi. Faites 1 mois, faites-le réellement si vous avez l'impression de consommer trop de sucre. En ce moment, c'est un bon moment pour le faire parce qu'il n'y a pas les restaurants, ce genre de choses et tout. Même 15 jours, je pense que c'est déjà pas mal. Donc, n'hésitez pas à le faire, c'est hyper intéressant. Et surtout, si ça peut vous permettre de pas boire de pas mettre de sucre dans votre café, dans votre thé, peut-être arrêter de vous passer de boissons sucrées, de soda, parce que je suis sûr que quelqu'un qui fait un défi sans sucre ajouté pendant 15 jours, le coca ou ce genre de choses, il ne le boit plus, quoi, après. Enfin, ça, il va trouver ça très sucré. Donc, n'hésitez pas à le faire, mais peut-être pas si long que moi.
Oui, rien que quand tu le dis, 15 jours, ça me paraît le bout du monde en ce qui me concerne. C'est bien noté. Donc, dans 2 jours, tu pourras dire que le défi 93 jours est définitivement achevé. Est-ce que tu as l'intention de nous surprendre avec une prochaine saison?
Alors, certainement une prochaine saison, mais je pense ne plus pratiquer le défi sans. Voilà. Moi, ce que j'ai envie, c'est de continuer l'aventure 93 jours en menant des enquêtes sur certaines, sur l'alimentation et sur son impact sur nos vies. Il y a le jeûne qui m'intéresse, il y a ce genre de choses, mais ne plus être cobaye moi-même, tout simplement parce que, en fait, je m'aperçois que ça a des conséquences, des effets qui peuvent être aussi négatifs sur ma santé et que c'est pas forcément les choses les plus intéressantes. C'est intéressant parce que je pense que d'un point de vue éditorial, c'est super cool pour les gens de se dire, tiens, ils le vivent, ça apporte un peu de richesse au contenu, mais c'est pas forcément très pertinent pour moi, pour ma santé, pour mon rapport à l'alimentation. J'ai envie de m'intéresser au sel, j'ai envie de mener des enquêtes, j'ai envie de continuer à aller voir des experts, j'ai envie de tester aussi de réduire ces aliments, mais j'ai pas envie d'être aussi drastique sur parce que c'est une responsabilité, mine de rien. Il y a quand même beaucoup de gens qui écoutent le podcast. Quand tu craques, tu peux avoir l'impression de décevoir les gens. C'est une pression quand même, donc ça bouleverse aussi ta alimentation et tout, et c'est un peu trop de changements. Donc j'en ai parlé un peu aussi avec ma diététicienne, avec l'hypnothérapeute, avec mon entourage, et ce qu'on s'est dit, c'est que c'était sympa, mais c'est peut-être maintenant se faire ça un peu moins, de manière un peu moins drastique.
Ce qui se comprend tout à fait.
Exactement. Mais par contre, encore envie d'enquêter sur certaines alimentations. Donc, s'il y a des auditeurs et des auditrices qui ont des idées, qui ont envie que j'enquête sur certains aliments, certains régimes alimentaires, certaines aussi assimilations, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, sur les réseaux sociaux. Et puis, ça sera peut-être l'occasion de faire une saison 3.
On sent que ça fulmine déjà dans ta tête.
À mon avis, j'ai quelques idées. Après, il faut le temps aussi de pouvoir le produire. Parce que c'est des choses qu'on autoproduit, c'est des choses qui, aujourd'hui, on le fait parce qu'on est des passionnés, parce qu'on s'intéresse à cette question-là, mais forcément, il y a aussi une question de temps et qu'il y a une entreprise derrière, donc il faut aussi que ça puisse pouvoir vivre, il faut du temps que je puisse le faire. Donc, j'espère avoir suffisamment assez de temps l'année prochaine pour le faire, parce que ça me passionne et que je trouve ça bien. Mais voilà, quoi. Donc j'ai envie, donc pour l'instant, je ne sais pas s'il y aura une saison 3, je pense que oui, j'espère que oui, mais à suivre.
Eh bien, on croise les doigts. En tout cas, je te remercie pour cet échange et d'avoir partagé avec nous cette belle expérience. Et on espère te revoir pour une prochaine saison.
Merci à toi. Merci de faire cet épilogue avec moi et cette synthèse. Et puis, je te dis à très vite.
À bientôt.
Et voilà, dans quelques jours, ce défi va s'arrêter. Vous avez été très nombreux et nombreuses à suivre cette aventure, à m'encourager et à m'envoyer vos petits mots de soutien. Et pour tout ça, je tenais à vous dire un grand merci. Ce n'a pas toujours été simple de produire, écrire, réaliser, organiser cette série, surtout dans le contexte actuel. De plus, dans cette saison, je me suis beaucoup plus livré, mais j'avais à cœur de vous parler des troubles de la personnalité qui, malheureusement, concernent de plus en plus de Français. J'espère qu'on pourra très vite se retrouver pour une saison 3, pour une nouvelle enquête, pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous et j'espère à très vite.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.